Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, bon dimanche matin à vous les auditeurs. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très heureux d'être avec vous évidemment. Bon petit déjeuner, on va vous accompagner tranquillement ce matin. Les grandes gueules du sport, l'émission que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast, tous les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG. Lionel Messi a encore porté le PSG hier soir lors de la victoire face à Nice de 2-1. Peut-il redevenir le meilleur joueur du monde? 9h30, la punchline des GG autour de Remco Evenepoel, le nouveau champion du monde de cyclisme, courtisé, paraît-il, par Ineos, la grosse écurie. Le voir partir, est-ce impossible selon vous? 10h, les GG passeront la seconde sur le cas épineux Red Bull Verstappen, suspecté d'avoir dépassé le plafond budgétaire de la saison 2021. Les écuries, Mercedes en tête, évidemment, demandent une sanction exemplaire. Si c'est avéré, la FIA, la Fédération Internationale, doit-elle destituer Verstappen de son titre de champion du monde? On en parlera donc à partir de 10h. Et puis, restez bien avec nous, 11h30, nous allons célébrer, fêter l'anniversaire de notre GG Marion Bartoli dans le C'était mieux avant de Christophe Cessieux. Nous sommes le 6 juillet 2013.
Le quatrième, c'est un ace. Marion Bartoli n'en croit pas ses yeux, elle remporte Wimbledon 6-1, 6-4, un dernier jeu extraordinaire alors que l'Allemande montrait l'écran à jeu blanc avec que des coups gagnants. Marion Bartoli remporte le tournoi de sa vie. La quinzaine, elle se dirige vers son box. Faut lui pousser presque les fesses, allez. Et elle tourne dans les bras d'Antonin, de Cristina Bladenovic, d'Amélie Mauresmo à l'instant, et puis Thomas Drouet, et puis son papa. Quelle accolade, quel bonheur.
Eh oui, quel bonheur. J'imagine que ça lui donne des frissons. Forcément, on va accueillir Marion dans quelques instants. C'est son anniversaire. Magnifique séquence à 11h30 avec Christophe Cessieux. Les grandes gueules du sport ce matin. Une grande gueule qui, comme Marion Bartoli, on ne peut pas dire son âge. Bon, lui, c'est pas par galanterie, hein, c'est juste qu'on a arrêté de compter. Christophe Cessieux, salut Christophe. Christophe, t'es là? Tout va bien?
Il essaie d'allumer mon micro au moment où je l'allume. Donc c'est éteint et on vit. Bonjour, moi je suis très de mauvaise humeur aujourd'hui, oui. C'est pas grave. Salut.
Raconte-nous pourquoi. Dis aux auditeurs.
Il n'y a rien qui marche.
Voilà.
Je suis trahi par la technique depuis ce matin.
Oui, c'est
trahi
vraiment.
Par la technique. Je n'arrive pas à allumer mes textes, je n'arrive pas à allumer mon micro, je n'arrive pas à prendre mon vélo électrique. Bref, tout va mal.
Très bien.
Mon vélo.
Attention, une grande émission de Christophe Cessieux dans ces conditions. Je sais que souvent le dimanche matin c'est compliqué pour lui. Donc je vous propose quand même de le soutenir, hein, mes chers GG. Hein, ne l'attaquez pas gratuitement. Très heureux en tout cas de te retrouver, mon cher Christophe. Une grande gueule qui, comme Marion Bartoli, a su faire fructifier sa carrière. Elle vit à Dubaï, lui à Laval. Marc Madio, salut Marc.
Bonjour. Oui, Laval, oui.
Bah, oui, c'est beau, hein.
Dans la banlieue de Dubaï.
Je sens une petite agression.
Moi?
Oui.
Mais pas du tout, j'adore la Mayenne.
Ah. Mais je vous invite à passer et à vous arrêter, surtout en Mayenne, parce que c'est un département.
Parce que souvent tu passes, hein, tu traverses, éventuellement pour aller en Bretagne.
Et c'est le grand tort. Si vous vous arrêtez une fois, vous ne repartez plus.
Ah, c'est comme le Nord, on pleure deux fois?
Non, on reste.
On reste.
Tu restes enfermé dans une ferme.
L'envie de venir, le plaisir de rester.
Séquestré par les Madio.
Non, pas du tout.
Non, mais tu as bien raison, évidemment.
Voilà. On adore. Ne venez pas trop nombreux quand même, parce qu'on aime bien garder notre.
Il n'y a pas de risque, normalement. Une grande gueule qui, comme Marc Madio, pour devenir le. Qui, comme Marc Madio, qu'est-ce que je raconte? Une grande gueule qui, comme Marion Bartoli, pour devenir le boss, il va quand même falloir quelques circonstances favorables. Simon Dutin, salut Simon.
Salut Jean-Christophe. Oh, tu me prêtes des intentions, tu sais, moi j'ai pas l'intention de remporter de grand chelem ou de place de titulaire à la place de
ça.
Qui que ce soit.
C'est méga parce qu'il disait la même chose. Il y a 3 ans, il disait la même chose. T'inquiète pas, moi la présentation des grandes gueules, je m'en veux pas.
Je pense que c'est la bonne tactique.
Mais
ouais.
Moi, ça m'intéresse pas.
Ce mec, il arrive, il te plante le couteau dans le dos sans que tu t'en rendes compte. En fait, ça fait pas mal en fait.
Non, attention au revers long de ligne là, qui pourrait jaillir là.
C'est passé tout en douceur, t'as vu Christophe. Ah, j'adore cette émission, je vous adore mes GG. Et puis une grande gueule qui, comme Marion Bartoli, déteste l'écurie Red Bull et pourtant elle en boit des litres. Marion Bartoli, salut.
C'est
Marion
clair.
Ça va Marion, bonjour, bon anniversaire.
Happy birthday.
Merci pour cet accueil. Merci.
On n'avait pas du Patrick Sébastien en régie tout à l'heure.
Si oui, ouais.
Je sais pas, je pensais qu'Alban aurait pu le mettre pour moi.
Non, c'est pas le genre de la maison. Non, hein. Non moi j'ai un autre cadeau. Il y aura le cadeau à 11h30 évidemment signé Christophe Cessieux. J'ai un autre cadeau, mais je sais pas si tu veux l'écouter, c'est un certain Benoît P de Lisbonne. Est-ce que tu veux l'écouter ou non, on passe.
Allez, vas-y.
On passe, bon, c'est un petit cadeau pour Marion Bartoli.
Vas-y.
Santé Marion.
Voilà.
Santé Marion, en ce jour d'anniversaire. Les copains, on va débuter cette émission par cette citation, par ce proverbe argentin qui dit « Le passé est un prédateur ».
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Tu taper la Messi direct.
Bah, elle frappe en une. Il n'y a pas le temps dans la surface de réparation. Il y a quatre joueurs autour de lui.
Ça m'écorche la bouche de dire Messi, phrase, Messi, virgule, il est nul.
Moi, Messi, avec le ballon,
mais il est nul.
Je m'attends de voir à quasiment 35 ans.
Il est nul.
Alors, oui, il est un peu moins frais.
C'est à chier.
T'as l'intention de faire un comeback, mon gars?
Tu crois que je pourrais?
I'll be back.
Sois gentil, ne fais pas ça.
Attention à pas faire de faute. Verratti pour Messi dans l'axe. Le ballon pour Neymar. La première occasion. Neymar, la frappe de Messi et le but.
Jésus 2, le retour.
Et le but du Paris Saint-Germain, il est signé. Léo Messi sur coup franc. Il n'y arrivait pas dans le jeu. Il est splendide.
Numéro 30 du Paris Saint-Germain. Léo.
Merci à Alban Azaïs, notre réalisateur, pour cette production. Dans quelques jours, Lionel Messi devra laisser son trône. Cette fois, c'est sûr, il ne sera pas Ballon d'Or. Après une première saison au Paris Saint-Germain, très loin de ses standards, l'Argentin a repris sa marche en avant. 9 matchs de Ligue 1, déjà 5 buts, 7 passes décisives. Hier soir face à Nice, vous l'avez entendu, il a inscrit un coup franc, le 60e coup franc direct de sa carrière. La musique qui fout les jetons. Et cette question: Lionel Messi peut-il redevenir le meilleur joueur du monde? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Marc Madio.
Oui.
Marion Bartoli.
Le meilleur non parmi les meilleurs, je pense que oui.
Simon Dutin.
Si, señor.
C'est un oui, visiblement. Avant de débattre, je vois qu'il y a débat, en tout cas dans le studio RMC, je vous propose d'écouter Christophe Galtier. Oh, c'était il y a quelques heures, après le match, en conférence de presse. Voici ce qu'il nous dit sur Messi. Il répond à la question.
Il est bien dans sa tête, très heureux tous les jours quand il vient s'entraîner. La saison dernière a été compliquée pour lui, mais il avait des circonstances atténuantes. Il est heureux. Et quand Léo est heureux, il est automatiquement performant. Et quand il est performant, il peut retrouver les standards qui étaient les siens tout au long de sa carrière. Cette année, il reprend goût à marquer, il arrive à marquer, il est décisif. Est-ce qu'il peut redevenir le meilleur joueur au monde? Oui.
La réponse est oui de Christophe Galtier. C'est également oui pour Simon Dutin, pour Marc Madio, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Simon Dutin, pourquoi oui?
Hier, lorsqu'il sort, je ne sais pas si vous avez regardé le match, Christophe Galtier, il applaudit, hein, il est au spectacle. Le mec, il s'est régalé, il a encore un petit peu de bave aux lèvres. Il applaudit, hein, c'est pas genre, c'est bien mon gros, il s'est régalé. Vraiment, il est en admiration. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Souvenez-vous, hein, lorsqu'il quitte Barcelone, il fait sa conférence de presse, il est en larmes, c'est breaking news dans le monde entier. Hein. Donc, effectivement, il y a une attente. Il a défié, en compagnie, certes, on va me le dire, de Cristiano Ronaldo, toutes les statistiques, tous les standards auxquels on avait eu droit jusqu'à présent dans les moyennes de grandes saisons pour les grands joueurs. Bon, l'an dernier, 6 buts, 14 passes décisives en Ligue 1. On a quand même réussi à dire que c'était une chèvre, hein, que c'était vraiment... parce qu'il nous avait mal habitués. Plus, on ajoute le record des barres et des poteaux, des barres transversales sur une saison. Cette saison... 12 matchs, 7 buts, 8 passes décisives, 10 fois homme du match. Il met 2 doublés avec l'Argentine. Sur l'année 2022, personne, aucun joueur sur la planète n'a fait plus de passes décisives que lui. Et surtout, on parle de stats, parce que c'est le monde qu'on a créé dans les médias. On a besoin de stats pour que ça crée l'événement, pour créer des stars et intéresser le public. C'est comme ça, on a rien inventé et on peut plus s'en sortir. Mais réduire Messi à des stats, c'est insulter le football. Je suis désolé, quand tu connais le football, tu sais que tu as devant toi un joueur qui fait autre chose que marquer des buts. Messi, on a tendance à l'oublier, voire à l'occulter complètement. C'est la plus belle passe du football mondial. Personne ne trouve la profondeur comme lui lorsque le ballon jaillit des pieds. Il a une facilité à lâcher le ballon en une touche, en deux touches, à jouer pour ses partenaires.
Non, mais il est très bon, très bien. Mais pourquoi il pourrait devenir le meilleur joueur du monde?
Encore une fois, encore une fois,
il y a du monde. Quand
même. Encore une fois, sur une passe de 3 mètres, il te montre parfois que c'est un génie absolu, que il n'y a pas de comparaison possible à avoir. C'est la meilleure passe du football mondial, c'est le meilleur dribbleur du football mondial. Il a prouvé hier qu'il a encore sa faculté d'accélération hors du commun. Et surtout, et ce que certains footiques n'ont pas voulu voir l'an dernier, c'est qu'il a eu de l'intelligence en arrivant dans un environnement totalement étranger, de se mettre au service du collectif. Il est arrivé à Paris, il a dit « Ok, il y a un mec qui déchire tout, c'est Mbappé. Et moi, finalement, pour m'intégrer, quoi de mieux qu'essayer de servir au mieux Mbappé ?» Demande à Mbappé s'il n'est pas content, s'il a déjà eu un mec comme ça qui jouait derrière lui. Et pour terminer, à l'approche des grands rendez-vous, ça reste un carnassier, l'odeur du sang. Il y a le mondial cet hiver. Et effectivement, bah, un petit peu à l'image de Neymar, toute proportion gardée, attention, avec cet objectif. Il a gagné son premier trophée international avec l'Argentine l'an dernier à la Copa América. Il se sublime et il montre effectivement qu'il n'est. C'est pas qu'il va redevenir, c'est qu'il est toujours le meilleur joueur du monde.
Ok, à chaque fois qu'on parle de Lionel Messi, évidemment, Simon Dutin, c'est pas des tunnels, hein, évidemment, qu'il fait. C'est encore plus que ça. On répond quoi au jeune Padawan, là
Non, mais le mec, il est admiratif, Messi, il bave dès qu'il voit Messi, il est comme ça. Faut te calmer, mon garçon, c'est pas grave. Il a bien mis très beau but en plus contre Nice, donc moi ça m'énerve. Mais non,
c'est surtout ça qui t'énerve.
Mais évidemment que c'est un immense joueur et que ça restera sans doute le plus grand de tous les temps. Hein, c'est marrant parce que on parlait de Federer il y a quelques temps et voilà, Messi c'est l'équivalent de Federer en matière de football. Mais de là, c'est pareil. Je me rappelle de Steve qui nous disait mais oui, vous verrez. Roger Federer redeviendra le plus grand, il regagnera des tournois. Mais oui, mais après, le problème, c'est qu'il y a des limites physiologiques un jour.
Et puis il y a les autres.
Et puis il y a les autres qui poussent parce que un Haaland, un Mbappé et des jeunes, ils sont là et leurs dents
ils sont là
et leur talent.
Ils sont meilleurs que Messi.
Non. Mais attends, mais tu peux pas juger Messi depuis le début. Il joue au Paris Saint-Germain. On verra en quart de finale, en demi-finale. On verra en Coupe du Monde ce qu'il en sera. Je te dis pas que c'est un joueur lambda. Évidemment que c'est le plus grand de tous les temps. Mais de là à dire, oh là là, parce qu'il a marqué un but, ça y est, c'est redevenu.
Tu t'arrêtes au but. Hier, il fait un match exceptionnel.
Footix, mais toi, t'en es vraiment, t'es l'équivalent, tu es l'archétype du Footix, quoi. Tu vois un but, oh, ça y est, c'est le plus grand de tous les temps.
Mais tu fais l'erreur que font tous les Footix. Tu t'arrêtes au but.
Le match de Messi, je m'en prends pas pour un génie de l'after comme toi. C'est ça.
Le match de Messi hier, même si tu enlèves son but, il est exceptionnel. Même sans son but, il est l'homme du match hier.
Il fait un super match. Je suis d'accord avec toi. Mais un super match, c'est le plus grand de tous les temps.
Mais il est exceptionnel depuis le début de la saison.
Il est pas mal.
Élu 10 fois homme du match.
Il est pas mal.
Personne ne fait ça nulle part.
C'est au PSG.
Mais ça, c'est un argument irrecevable.
On vous pose la question de savoir si Lionel Messi peut redevenir le meilleur joueur du monde, si Lionel Messi peut, par exemple, gagner un 8e ballon d'or la saison prochaine. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible? Marion Bartoli, c'est plutôt non pour toi.
Non, et je suis vraiment totalement sur la lignée de Christophe. Pour moi, bien évidemment qu'auparavant, et le comparatif avec Federer, je l'aime énormément parce que je me suis fait le même dans ma réflexion hier en préparation de l'émission. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que bien sûr qu'auparavant, ça a été le meilleur joueur du monde, bien sûr qu'il continue à garder ses gestes techniques exceptionnels, mais la vista et l'endurance physique, tu peux pas lui demander d'avoir la même maintenant que celle qu'il avait il y a 10 ans ou même auparavant. Ça, c'est pas possible, c'est juste physiologiquement pas possible. Donc tenir un match chantier, répéter les efforts comme il le faisait auparavant sur des saisons complètes lorsqu'il était à Barcelone, on le verra plus. Et ça fait partie des critères pour être le meilleur joueur du monde. En revanche, qu'il soit toujours capable sur des gestes techniques dans les petits espaces, sur sa vision du jeu, sur les passes en longueur, sur une réalisation individuelle comme il le fait hier sur son but, bien sûr qu'il restera sur ces standards-là parce que c'est ce génie que tu le perds pas. Ça, c'est certain. Mais tu peux pas occulter totalement l'aspect d'endurance physique et l'aspect de répétition des efforts quand tu prends en compte tous les éléments nécessaires pour être jugé comme le meilleur joueur du monde. Et aujourd'hui, lorsqu'il fait une saison en 2012 où il bat le record de Gerd Müller, il a 91 réalisations, même si effectivement Messi ne se limite pas que simplement à des stats, comme était aussi Zinedine Zidane, tu dois quand même les prendre en compte. Et l'année dernière, il est simplement arrivé en étant transparent parce qu'effectivement, psychologiquement, on voyait très bien que l'adaptation a été très compliquée pour lui. Là, cette année, il a fait une bien meilleure préparation parce qu'il y a aussi la Coupe du Monde en ligne de mire. Il faut quand même pas non plus le cacher et mettre la tête dans le sable aussi. Donc, après tous ces éléments-là, qu'il soit capable de revenir à un niveau physique bien meilleur, qu'il ne tombe plus dans les dribbles, pardon, et que donc qu'il soit capable d'imprimer plus de cadence, ça c'est évident. En revanche, je le vois plus faire comme auparavant, c'est-à-dire le répéter sur des saisons complètes, aller au bout en Ligue des Champions et être capable de faire ça à la fois en championnat, Ligue des Champions. Donc il aura des trous et des trous d'air, et je pense physique, et c'est totalement normal, c'est dû à son âge. Et pour moi, c'est un élément qu'on ne peut pas occulter dans la définition du meilleur joueur du monde.
36 matchs lors de l'année 2022 pour l'instant. 36 matchs, 22 buts, 22 passes décisives. Voici pour les standards en ce moment de Lionel Messi. Et on a rappelé depuis le début de la saison ces chiffres. Marc Madiot, pourquoi oui ?
Pourquoi oui ? Tout simplement parce que c'est un coureur.
Ouais, des formations professionnelles, c'est normal.
Ouais, c'est ça.
Tu le veux à la FDJ ou pas ?
J'aimerais bien. Non, mais je crois que c'est un joueur hors norme. Et quand on est un joueur hors norme, je pense qu'il a eu une bonne préparation. Il a bien évidemment en ligne de mire la prochaine Coupe du Monde. Moi, je m'avance. Si l'Argentine est championne du monde avec lui, il sera Ballon d'Or.
Ok. Voilà. On rappelle que c'est sur une saison, désormais,
oui,
pas une année
d'accord.
civile.
Oui.
Donc ça va dans le sens que.
Et là, il a bien commencé sa saison. Et.
Oui, je regarde
sur le terrain. Messi n'a jamais été capable de faire gagner la Coupe du Monde à l'Argentine.
Mais ça va arriver.
Oui, bien, moi, je regarde juste s'il fait gagner la Ligue
tout
des Champions au PSG, peut-être aussi.
Également, mais ça viendra après ça. Moi, je pense que.
Donc tu vas tout gagner cette année.
Pourquoi pas? Non, mais.
C'est un peu ça, ouais.
Écoute.
Marc Madiot.
Avant qu'il n'arrive sur le championnat français, on le voyait avec parcimonie, ici ou là, à travers quelques images ou sur un gros match de Ligue des Champions. Mais moi, quand je regarde ce joueur sur le terrain, son attitude, son visage, son regard, moi je dis respect. C'est un immense joueur. Immense joueur, et je pense qu'au-delà du joueur, et c'est aussi pour ça que c'est un immense joueur, c'est un grand monsieur. Moi j'aimerais que tous les autres joueurs, notamment certains du PSG, s'inspirent de ses attitudes et de son comportement. Il est exemplaire. Le mec, il a été... le numéro 1 des numéro 1 pendant plusieurs saisons. Et là, il démontre autre chose. Les petits, là, qui est autour de moi, regardez ce qu'est un vrai grand joueur.
Et oui, mais
voilà,
bien sûr.
C'est tout.
Le sens du collectif, mais j'imagine que...
Mais pas que du collectif. Non, ça dépasse le collectif. Ça, c'est un état d'esprit, c'est une forme d'aura autour de l'équipe. Mais
exactement.
Et ce mec, il a un truc que les autres n'ont pas. Même quand il n'a pas le ballon, il a un truc que les autres n'ont pas. Moi, j'aime son regard, j'aime son attitude, j'aime son visage et son comportement sur le terrain. Je suis désolé, mais les autres, prenez-en de la graine.
Le camp du oui, quand même. S'il gagne un huitième ballon d'or, même si quand on est meilleur joueur du monde, on ne s'arrête pas qu'au ballon d'or, mais c'est quand même une référence, évidemment.
Il l'aura
Et ce serait le plus beau, ce serait le plus incroyable des ballons d'or dans l'histoire, peut-être des ballons d'or. À 36 ans, gagner un ballon d'or, en avoir gagné 7, être redescendu, non pas tout en bas, mais être redescendu, vous voyez, avec d'autres joueurs qui émergent, et lui, il arrive à gagner.
Le problème dans ce débat avec Messi, c'est que on passe d'un côté, on saute d'un côté entre le meilleur joueur de tous les temps et le meilleur joueur du monde. C'est pas la même chose, c'est parce que s'il remporte un huitième ballon d'or, alors là, tu m'expliqueras. Déjà, moi, je comprends qu'il y ait même pas qu'il y ait encore un débat sur le fait que ce soit le GOAT. Hein, mais on compare. En fait, Marion, tout à l'heure, elle a comparé la saison, la plus grande saison réalisée par un attaquant dans l'histoire du football, lorsqu'il a éclaté tous les records, qu'il a marqué plus de 90 buts. Avec la saison d'un meilleur joueur du monde. Les stats que tu as rappelées, plus de 20 buts, plus de 20 passes sur une année, c'est déjà top 3 en Europe. En Europe, c'est là qu'évoluent les meilleurs joueurs du monde. Donc la question, elle ne se pose même pas. Et là où je rejoins Marc, c'est que il y a de l'intelligence dans son football, ce que les spécialistes appellent le QI football, et de l'intelligence dans son comportement, effectivement, dans la façon dont il irradie dans le jeu. Et j'en reviens à ça, l'intelligence sur certaines passes de Léo Messi, à quelques mètres seulement, juste entre deux défenseurs, quand il fait jaillir le ballon et qu'il trouve la verticalité qui s'est perdue dans le football d'aujourd'hui, où on fait tourner, on cherche beaucoup les côtés, il a un génie que personne actuellement sur la planète football n'a. Sauf que lui en plus, tu peux me dire, ouais, Kevin De Bruyne, c'est un passeur extraordinaire aussi. Ok, peut-être tu peux comparer la passe de De Bruyne à celle de Messi, mais De Bruyne, il met 4 ou 5 fois moins de buts que Messi. Tu prends tous les comparatifs, et là où je rejoins Marc, c'est que son adaptation avec ses partenaires du Paris Saint-Germain, son compère de débat sur le meilleur joueur de tous les temps, Cristiano Ronaldo, a prouvé récemment qu'il était à la Juve ou à Manchester incapable de faire ses efforts, et qu'il est toujours auto-centré. Et juste pour la
parenthèse, hier, on a entendu chez Marc Madio, les voisins ont entendu « T'es grand, t'es grand, t'es immense !»
Quand tu es sorti. Bien sûr, il parlait de Lionel et pas du tout de Thibaut. Hein, comme, voilà, bah, Lionel, on a voulu nous le faire croire. T'étais pas d'accord avec eux, Marion ?
Non, je suis pas d'accord parce que pour moi, on voit très bien que quand Mbappé rentre hier sur le match un partout, c'est lui qui est complètement décisif. Donc pour moi, le meilleur joueur du monde actuellement, on l'a sur le terrain avec le PSG, c'est Mbappé. Et je vois pas comment il va pas gagner.
Mais il a encore du chemin à faire. Hein.
Il a du chemin à faire, mais quand tu le vois hier rentrer sur le terrain, tu vois très bien qu'il est décisif. L'année dernière, je crois que vous avez vraiment la mémoire courte. Vous avez vu les matchs de
l'équipe. Oui, mais c'est pas parce qu'il est, c'est pas parce qu'il est décisif quand il rentre sur le terrain que ça en fait le meilleur joueur.
Il a tenu l'équipe pendant un an l'année dernière. S'ils sont arrivés à sauver leur championnat et à sauver quelque chose en Champions League, c'est uniquement grâce à Mbappé. Pour moi, c'est l'avenir du foot. Que encore une fois, Messi était le plus grand à un moment donné. C'est indiscutable qu'il soit un génie du football. C'est indiscutable qu'il ait quelque chose en plus, don naturel. Cette vision du jeu que personne certainement n'aura d'autre, je suis complètement d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, le meilleur joueur du monde, c'est Kylian Mbappé. Et tout le monde le sait. Lorsqu'il rentre hier sur le terrain, tu vois très bien que le gars, il est décisif. Quand Deschamps va devoir s'appuyer sur un joueur sur la Coupe du Monde, tu vois très bien que ça va être Kylian Mbappé.
Il ne pourra pas prendre Messi, ouais, Deschamps.
Oui, mais on verra ce que Messi va faire avec l'Argentine. Encore une fois, même Messi, à son plus haut du plus haut, il n'a jamais été capable de faire gagner la Coupe du Monde à l'Argentine. Donc je ne pense vraiment pas que ça va être cette année que ça va arriver. L'avenir nous le dira.
Okay.
Pour moi, le meilleur joueur du monde actuellement, il est au PSG, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est Kylian Mbappé. Et que Messi soit revenu en très grande forme, c'est certain. Mais pour moi, tu ne peux pas le mettre à nouveau comme le meilleur joueur du monde. Tu peux aussi aller taper Lewandowski si tu veux mettre des stats. Hein.
Oui, non, mais parce que juste pour terminer, l'argument.
10 secondes. Hein.
L'argument physique, je suis désolé qu'invoquait Marion tout à l'heure, il ne tient pas. Hein. Hier, quand Galtier fait son changement, c'est Kitike qui a 20 piges hein, qui sort et pas Messi qui vient de se taper.
Kitike a traversé la planète.
Si Messi il était sur la jante en raison de son âge, c'est Messi qu'on aurait sorti parce qu'il vient de jouer avec l'Argentine, de traverser
Messi
la planète
sorti, hein.
Et qu'il est crevé. Il a fini par sortir
Messi
pour prendre l'ovation qu'il méritait.
Ok, très bien les copains, vous n'êtes pas d'accord. Lionel Messi peut-il redevenir le meilleur joueur du monde aux alentours de 11h40? Vous composez le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un autour de la table. Venez lui dire, n'hésitez pas, on vous attend avec grand plaisir. Dans quelques instants, la punchline des GG, la nouvelle star du cyclisme international, Remco Evenepoel. Il fait parler, il y a des rumeurs, et on l'envoie peut-être, pourquoi pas chez Ineos. Vous y croyez ou pas? À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi.
Moi je dis respect.
Les grandes gueules du sport.
C'est un immense joueur. Je pense qu'au-delà du joueur, c'est un grand monsieur.
Jean-Christophe Drouet.
Et on a tous à apprendre de Marc Madiot, évidemment. On est de retour dans le studio RMC des grandes gueules du sport. Les GG ce matin avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Marc Madiot, Simon Dutin. On est là le samedi, le dimanche de 9h à midi. Merci beaucoup de votre fidélité. Bon petit déjeuner à vous et vous allez voir. En notre compagnie, je l'espère, vous allez passer un très très bon dimanche matin. Sachez que dans une dizaine de minutes, on fera un point sur les petites informations qui sont arrivées ce week-end. Et vous allez me dire si on s'en fout, on s'en fout pas. Notamment la ville de Lille qui ne diffusera aucun match sur écran géant. Voilà, aucun match de la Coupe du Monde. Qatar, évidemment. Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Je vois l'œil énervé déjà de Marc Madiot. Je pense que ça va nous donner un très très bon moment. Œil énervé également de Christophe Cessieux, mais pour tout un tas de
raisons. Rien à voir.
Ce matin, on va lui apporter un peu de brioche, s'il vous plaît, un bon croissant, un pain au chocolat, toute la boulangerie, comme ça, ça va le mettre de bonne humeur. Le 32-16, évidemment, si vous voulez participer à cette émission. Il est devenu le cycliste que tout le monde s'arrache. Après son titre de champion du monde il y a une semaine, Remco Evenepoel a basculé dans une autre dimension, adulé dans son pays, la Belgique, courtisé par les écuries. Cette semaine, les rumeurs allaient bon train. Et s'il basculait chez Team Ineos, le poids lourd du cyclisme, en tout cas le patron de l'équipe britannique, Dave Braceward, n'a pas hésité à féliciter chaleureusement le prodige belge après son titre. Son manager à la Quick-Step, Patrick Lefebvre, s'en est amusé. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je trouve étrange qu'un message de félicitations pour Remco de la part de Brailsford intéresse soudainement le monde entier. Si tu veux vendre ce coureur, fais-le moi savoir. A ajouté Brailsford en riant. Ce à quoi j'ai répondu, il n'est pas à vendre. On peut faire le calcul. Un contrat de 5 ans comme celui d'Evenepoel avec tous nos sponsors. Cela fait 125 millions.
Ah, tu m'étonnes, ça fait un petit peu d'argent. Merci à Siri qui nous a retranscrit les propos, même si c'est pas facile de dire Evenepoel et Braceford, évidemment, dans la même citation. Mais merci à notre copine Siri. Evenepoel chez Ineos. Est-ce que c'est vraiment impossible? Oui ou non, Christophe Cessieux?
pour le moment, je pense que c'est. Il manque encore 2-3 ans.
Ok, il manque quelque chose. Mario Bartoli.
Pareil.
Marc Madio.
Alors.
Impossible ou pas impossible ?
Pour moi, aujourd'hui, ça me semble impossible pour plusieurs raisons.
Ok, mais j'arrive dans quelques instants. Tu connais la mécanique de cette émission. D'abord, je vous demande un petit peu ce que vous pensez. Puis après, j'arrive dans quelques instants. Simon Dutin.
Je connais le fonctionnement du cyclisme quasiment aussi bien que Marc Madio. Et moi aussi, je trouve que c'est impossible.
Personne n'y croit. C'est fou, ça, Marc. Pourquoi personne n'y croit ?
Il y a plusieurs épisodes en une seule journée. Le message de félicitations de Bright Ford, pourquoi pas ? Mais je suis extrêmement amusé du fait que Patrick Lefebvre le diffuse. Et s'il diffuse cette information, c'est pour créer un buzz. D'ailleurs, il a été bien orchestré, parce que dans la foulée, il a organisé un dîner avec son coureur et le papa du coureur,
voilà,
visiblement dans un restaurant fort sympathique en Belgique.
Exactement.
Il a communiqué sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Lefebvre monte... la mayonnaise autour de son coureur par rapport à ses sponsors. Je pense qu'il attend un retour sur investissement, parce qu'il faut savoir une chose. Patrick est un homme d'affaires et il aime faire de bonnes affaires. Et il est clair que s'il peut ramener quelques deniers dans la besace de son équipe, il ne va pas s'en gêner. Et l'idée qu'il a en ce moment, je pense, c'est d'augmenter la masse financière de son équipe. Et il va se servir d'Evenepoel pour aller dans ce sens-là. La situation qui pourrait mettre en alerte la Belgique va lui servir pour faire monter la barre au niveau des partenaires et peut-être amener de nouveaux partenaires vers cette équipe.
Okay.
Vous voyez, on a un immense coureur et on va s'en servir et on va être la meilleure équipe du monde et on est belge. Voilà un petit peu comment je perçois la situation.
On est tombé dans le panneau alors ?
Ah, je pense un petit peu pas mal, oui.
Ok, Simon ?
Ah, c'est du Lefebvre pur jus. T'imagines, il est en fin de carrière, on le dit. On lui prête l'intention d'amener Evenepoel au sommet et puis de terminer finalement quoi avec la carrière d'Evenepoel. Il réalise ce qu'il a toujours rêvé de faire, c'est-à-dire placer un coureur belge jeune qui plus est avec du potentiel au sommet du cyclisme mondial. Et là, je rejoins tout à fait Marc. Évidemment, depuis qu'il a remporté un premier grand tour et le titre de champion du monde, les comparatifs avec Merckx en Belgique, ils sont comme des fous. Donc évidemment, ça vient renifler un petit peu autour du nouveau phénomène, du prodige. Ouais, on aimerait bien associer notre image à Evenepoel. Attention, mon gars, c'est cher, oui. Regarde. Même Ineos le veut. Et effectivement, il boit du petit lait, Lefebvre, parce que c'est une façon de dire, vous avez vu, la pseudo-prétendue plus riche équipe du monde, elle veut mon poulain. Hein, ben ils l'auront jamais. Mais regardez, Brentford, il se le rêve, mon poulain. Il m'a même appelé et tout. Bah, on est allé régler ça autour d'un restaurant. Il se régale. C'est une façon de montrer les muscles et de montrer à tout le monde que ce serait pas cool.
Il veut attirer des investisseurs sur son équipe. Ça, je suis sûr. Petite indiscrétion également que j'ai appris au détour d'investir sur les courses ces dernières semaines. Apparemment, il n'y avait pas de prime de victoire dans le contrat Quick-Step pour la Vuelta.
Ok.
Donc,
ce qui veut dire
ce qui veut dire que le Lefebvre a fait jackpot.
C'est-à-dire qu'il
n'a pas lui fait une petite rallonge.
Ce que j'ai compris, et c'est une indiscrétion qui sort de l'équipe Quick-Step, il n'y avait pas de prime de victoire de prévu dans le contrat pour la Vuelta.
Il est presque sous, notre ami
Patrick est un homme d'argent.
Un épicier flamand.
5 minutes de conversation avec lui, il y a toujours un moment où il va parler d'euros.
Regarde bien si tu as toujours ta montre à la fin du
Ok, à ce point-là. Donc, pas surpris, Christophe, par cette sortie médiatique.
Pas surpris par cette sortie. Et puis, c'est vrai qu'on est loin d'être dans le foot. Mais il y a quand même des petites choses qui semblent faire évoluer.
Mais oui, je tombe
à
des
terme,
nœuds,
le vélo vers ce genre de choses. Pour l'instant, la tradition veut qu'un coureur respecte son contrat et aille au bout. Il y a pas de transfert. Il y a des agents dans le vélo, mais les agents ne prennent pas d'argent.
Ils prennent de l'argent.
Mais ils prennent de l'argent pas sur les transferts.
Sur les salaires. Sur les
ils prennent sur
le contrat.
Les pourcentages sur les contrats.
En fait,
sur les salaires négociés.
Ils prennent ce sur quoi on hésite avec le coureur. C'est-à-dire que on négocie, on discute un contrat avec le coureur, et là, on sait tous à peu près à quel niveau va se situer le montant du contrat, et la part variable qu'on va discuter, c'est ce que prend en général l'agent.
Ouais.
Voilà.
Mais on n'en est pas. Ils ne prennent pas d'argent sur un transfert parce que les gens vont au bout de leur contrat. Mais on disait ça aussi du rugby jusqu'à présent. Et puis il y a eu le transfert de Cheslin Kolbe de Toulouse à Toulon l'année dernière. C'est des montants bien inférieurs aux sommes annoncées par Lefebvre. Mais tu sens que tout ça, ça fait tout, toutes les sommes du football commencent à faire fantasmer aussi les hommes d'affaires qui grenouillent autour du vélo. Et je suis pas, je mettrai ma main au feu que un de ces jours, dans les 5-10 ans, on en arrive à ce genre de système, mais peut-être avec évidemment des sommes moindres que celles dépensées par le foot, mais on y va malheureusement.
Il faut pas se tromper, hein. Le Prévert a annoncé 125 millions, c'est 5 fois 25 millions par année de l'équipe, ouais. Quick Step.
Oui, parce
c'est
le monde. Parce qu'en fait, super long.
Il fait un mélange des gens entre Evenepoel et son équipe. Ouais. Et il dit, c'est 125 millions. Mais en fait, il vend toute l'équipe.
Oui, c'est ça.
Il vend pas que le coureur.
Ouais. Il faut savoir que Evenepoel a un contrat très long par rapport au grand coureur actuel qui, d'habitude, c'est quoi? C'est, tu signes sur 2-3 ans maximum, deux, trois, c'est ça? Hein, ouais. Là, c'est un contrat long. Il a signé.
Jusqu'en 2026.
Et oui, il est bien verrouillé.
C'est que,
voilà. Ah bah c'est un homme d'affaires.
Venir le chercher, il va falloir raquer.
Marion.
Non, mais je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit autour de la table. Après, moi, ce qui m'intéresse énormément, finalement, dans cette dynamique médiatique, c'est la manière dont il a orchestré totalement la façon dont il met en avant son poulain, c'est ça qui est très intéressant de la part de Patrick Lefebvre. En fait, on voit très bien qu'il avait un coup d'avance à chaque fois. Et finalement, cette polémique et cette espèce d'émoi qui s'est créé en Belgique, c'est lui qui l'a orchestré de A à Z. Donc, tu vois qu'il est en train de faire monter les enchères. Effectivement, je pense qu'il va pouvoir, du coup, récolter d'autres sponsors parce que je vois pas la Belgique se dire, on va lâcher notre meilleur élément et on va le voir partir sur une autre équipe concurrente. Une équipe qui sait remporter le Tour de France. Et on sait très bien que maintenant, l'énorme objectif de Remco, c'est bien évidemment d'aller gagner le Tour de France. Ineos, c'est le spécialiste pour aller gagner le Tour de France. Quickstep ne l'a jamais gagné. Donc, il y a quand même un élément où tu dis, tiens, pourquoi pas, il y aurait une petite possibilité. Sauf que quand tu lis le feuilleton, en fait, il est mort-né dès le départ. Parce qu'effectivement, avec un contrat jusqu'en 2026, les chiffres sortis, alors après, il y a peut-être un petit peu d'intox, comme le dit Marc. Il vend finalement toute son équipe en mettant des chiffres élevés. Mais c'est ce qui attire forcément l'œil et l'attention. Mais il envoie un pic en disant, oui, si on veut le garder, va falloir nous lâcher des sous, il va falloir qu'on trouve d'autres sponsors. Donc je pense qu'il a parfaitement orchestré son affaire, mais je sais pas si Ineos va quand même pas arriver, pourquoi pas le récupérer avant la fin de la date de son contrat. Je pense que s'il fait encore 2-3 années avec Quickstep, qu'il voit qu'il n'arrive pas à remporter le Tour de France parce qu'il n'y a pas cette capacité dans son équipe d'aller le chercher, je sais pas s'il va pas finalement aller de l'autre côté de la barrière et aller dans une équipe qui va le faire gagner le Tour de France, parce qu'après il a aussi forcément des objectifs personnels.
Braceford, s'il a des dernier sous à mettre, copains, c'est pas la peine de les mettre sur Evenepoel, qui trouve un bon attaquant à l'OGC Nice ou un mec qui est capable de nous faire gagner là, plutôt que dépenser des sous dans le cyclisme. Donc il a plein de thunes, mais il nous donne pas les joueurs dont on a besoin. Oui. Bah, il faut racheter, pourquoi pas, un Messi au PSG, ce serait pas mal ça. Hein, c'est le meilleur joueur du monde, non,
le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur du monde actuellement.
On prend Evenepoel et le mettre à l'OGC Nice.
Voilà, attention, c'est un bon footballeur. Hein.
Ouais, capitaine des
Diables Rouges
juniors.
Capitaine dans les équipes de jeunes à Anderlecht.
Ouais. Capitaine
des Diables Rouges juniors. Pour dire que, une fois n'est pas coutume, je rejoins mon illustre confrère Cessieux. pour dire qu'effectivement, il y a une tendance, moi je crois, le cyclisme cherche à s'événementialiser, à devenir de plus en plus bankable. Hein, et effectivement, à ce titre-là, je pense qu'on viendra à terme vers des transferts payants entre les équipes. D'autant plus que ces dernières années, je parle sous le contrôle de Marc, les contrats de certains coureurs se sont rallongés. Pogacar, je crois qu'il s'était engagé pour 6 ans avec son équipe. Et que, quand tu as des renards tels Georges Mendes, tu sais, le super agent du football, qui viennent renifler un petit peu autour des contrats des coureurs cyclistes, c'est qu'en général il y a beaucoup de pognon à se faire et
mais attention,
et
Patrick Lefebvre l'a encore dit ces derniers jours, le cyclisme c'est pas le football, ok, et on apprend qu'il a un petit peu des oursons dans les poches, hein, notre ami
belge. Des oursins,
je sais, mais c'est une vanne. Évidemment
bien rattrapé, ouais.
Non, bah,
tu vas finir chez Adrien Higuain, ça.
Ah, non, mais les oursons dans les poches, c'est évidemment une vanne. C'est comme, d'accord, si je te dis, est-ce que t'as attends, j'ai pas la vanne. C'est comme si je te dis, tu passes du coq à light. Voilà, je sais que c'est du coq à l'âne.
Du coq à l'âne. Oh, okay. Elle est belle celle-là.
Bon, je te prends avec des pains secs. Ouais, c'est des pincettes. Voilà. Si vous n'avez pas les références, si vous n'avez pas les vannes.
Passez votre tour.
Oui, et puis bon, faisons une émission de sport. Alors, ok, faisons une émission de sport. Il n'y a pas de problème. 9h46, on se retrouve dans quelques instants. La suite des GG. La ville de Lille qui ne diffusera aucun match sur écran géant pour la Coupe du Monde. Je pense que ça vous fait réagir. C'est le zapping. On s'en fout pas, tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h50 de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 10h, nous allons ouvrir le dossier Red Bull et Verstappen, suspectés d'avoir dépassé le plafond budgétaire de la saison 2021. La FIA doit-elle destituer Verstappen? Si c'est avéré, le rapport va tomber dans quelques jours. Et il y a beaucoup de tensions en ce moment à Singapour, le théâtre, le lieu du Grand Prix du jour. On en parlera donc à partir de 10h de cette histoire sulfureuse. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Le zapping des grandes gueules du sport, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, évidemment, nous zappons l'information. La première à vous donner, ça commence à faire du bruit, c'est la ville de Lille qui ne diffusera aucun match sur écran géant. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Ok, Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Marc Madio.
On ne s'en fout pas.
Le conseil municipal de Lille a décidé ce week-end à l'unanimité de ne diffuser aucun match sur écran géant pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar afin de manifester contre la tenue de cette compétition dans ce pays. C'est un non-sens au regard des droits humains, de l'environnement et du sport, a déclaré hier la maire socialiste de Lille, Martine Aubry. Sachez que cette initiative va être suivie par d'autres villes comme Reims, Strasbourg ou encore Marseille, Bordeaux. Il n'y a pas d'officialisation, oui, Notamment pour Marseille et Bordeaux, mais ça devrait être suivi. C'est une information RMC qui vient tout juste de tomber. Donc on va prendre quelques minutes pour me donner votre avis. Je sais que Marc Madiou, ça te fait réagir.
Oui. Ça me fait réagir parce qu'on vit quand même une drôle d'époque. On vit une drôle d'époque tout simplement parce que cette Coupe du Monde a été attribuée depuis bon nombre d'années. On est à 2 mois de l'échéance et là, de part et d'autre, se réveillent des prises de position pour le moins surprenantes. Je suis désolé, mais le foot devrait être un sanctuaire, comme le sport en général, mais le stade, c'est quand même un sanctuaire où toutes les religions, toutes les idées, toutes les particularités peuvent se retrouver autour d'un ballon. Et moi, je suis beaucoup plus attaché à la symbolique du ballon qui réunit tout le monde plutôt qu'à essayer de trouver des symboliques qui vont stigmatiser et mettre les gens en opposition. Moi, je suis Lillois, je suis ouvrier, j'ai pas forcément la télévision à la maison, la vie n'est pas simple. Et cette Coupe du Monde, c'est toujours un moment de rassemblement, c'est un moment de fête, de retrouvailles autour d'un écran géant ou autour d'un écran de télévision dans un bar, dans un restaurant. Et là, sur la place publique, on veut enlever les écrans géants pour que des gens ne se retrouvent pas, au simple prétexte qu'il y a eu des soucis avec le Qatar depuis un certain temps. Et on ne les découvre pas, les soucis avec le Qatar, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Donc moi, je trouve ça, c'est de la récupération. Et c'est fort dommageable. Je trouve que le monde politique pourrait se grandir à avoir une autre attitude.
Ok, pour toutes les informations, allez voir sur rmcsport.fr. Lille, Reims, Strasbourg, voilà déjà les villes qui ont annoncé qu'il n'y aurait pas d'écran géant pour cette Coupe du Monde. Marseille et Bordeaux pourraient emboîter le pas. Marseille qui pourrait installer un écran géant que si la France est en finale. Christophe,
oui, c'est démagogie quand tu nous tiens. C'est ça, là, tous les petits édiles locaux qui ont l'impression d'exister en prenant cette décision hautement symbolique et qui évidemment va faire se retourner tous les émirs et tous les dirigeants du Qatar. Mais c'est ridicule. Ça va surtout permettre à Madame Aubry et à tous les conseillers municipaux.
Est-ce que Madame Aubry va au match de foot cher, quand Lille reçoit le PSG?
Pardon ?
Est-ce que Madame Aubry est dans le stade quand Lille reçoit le PSG ?
Elle y va sans doute. Elle y va sans doute, comme tout le monde. Et tout le monde est content d'aller voir l'équipe du Qatar.
Parler des économies.
Oui, en plus, c'est sûr que ça coûte cher de faire installer un écran géant. Ça coûte cher. En plus, il faut mettre des policiers pour surveiller ces diables de hooligans, c'est-à-dire les supporters du foot qui viennent regarder les matchs sur écran géant. Donc, c'est tout bénef pour Madame Aubry et les autres. C'est-à-dire qu'elle fait parler d'elle. Voilà, j'ai décidé avec mon conseil municipal à l'unanimité qu'on ne mettrait pas l'écran géant. Voilà notre réponse aux droits de l'homme bafoués au Qatar.
Et aux pauvres Lillois qui ont envie de passer un bon moment. Alors, dit quoi?
En tout cas, moi je me dis qu'un écran géant, quand s'il va faire moins 5 degrés, c'est pas très grave. Au pire, tu vas dans un bar.
Voilà.
Bon, en tout cas, c'est
cool. Tout le monde n'a pas forcément de l'argent à dépenser.
Marion et Simon, sur ce sujet, les copains, 30 secondes chacun, parce qu'on est assez pris par le temps et on en reparlera dans cette émission. Marion.
Je suis complètement sur la même ligne que Marc. Vraiment, pour moi, le sport, c'est quelque chose qui rassemble. C'est comme la musique, c'est universel. Et de mettre une récupération politique sur un événement pareil, je trouve ça lamentable.
Ok, lamentable. Simon Dutin.
Ah, bravo à la mairie, quel courage, vraiment. Je pense que ouais. Ça va changer le cours de l'histoire. On doit trembler dans les couloirs de l'Émirat au Qatar. Il y a un conseiller, j'imagine municipal, qui avait des points à marquer. J'imagine qu'il s'est senti pousser des ailes et qui a dit mais pourquoi on ferait pas ça. Je rejoins Marc sur le mépris du peuple. En fait, les gens qui ont parmi leurs seuls horizons le football, l'amour du football et l'envie de se retrouver. Exactement. Bon ben non, tu resteras chez toi, coco. Et puis faut pas se le cacher, c'est effectivement très démago. Et puis ça va faire des économies d'organisation, moins de services de sécurité à embaucher, moins de factures d'électricité. On sait que ça va coûter très cher. Donc derrière tout ça, c'est une bonne affaire. Et ça m'étonne pas d'ailleurs qu'à Bordeaux on réfléchisse. Hein. Tu sais, ils nous ont supprimé le sapin de Noël. Donc pourquoi pas supprimer les.
Oui, et puis j'imagine qu'à Lyon, qui supporte pas le Tour de France, on doit commencer à y réfléchir aussi.
Oui, évidemment.
C'est absolument ridicule. Pardon. C'est une posture absolument ridicule.
On vous a aussi supprimé une équipe à Bordeaux.
Oui. On est troisième de Ligue 2, je crois.
Dis donc.
Ah, il y a le.
Ouais.
Laval Bordeaux.
Eh ben oui. Ouais.
Quand ça?
Laval Bordeaux de ces lundis, c'est demain.
Oui.
Non.
Il
y a le GG ICO. Le
Laval Bordeaux.
Ça va être bon, ça va très bien.
Bon, en tout cas, ça va être beau pour tout le monde. Je te l'annonce.
Toutes les informations sur cette histoire, information RMC. Il y a Lille, Reims et Strasbourg qui ont donc annoncé qu'il y aura un boycott. Marseille et Bordeaux pourraient suivre le pas. rmcsport.fr
pour à Laval pour l'instant il y a un écran géant.
Oui, mais on va pas être nombreux à y aller.
On fait 10 cm sur 15, c'est l'écran géant de Laval.
Ok. Allez, on revient dans quelques instants. rmcsport.fr donc pour toutes les dernières informations sur ce sujet très important évidemment. On revient dans quelques instants. Max Verstappen peut-il être destitué? À tout de suite sur RMC.
RMC 9h midi, les grandes gueules du sport.